Mais quand je me réveille, Cal n'est plus là. En fait, c'est comme s'il avait jamais été là, comme s'il avait jamais existé. Non, c'est comme si moi je n'avais jamais existé, comme si j'avais été son double maléfique ou je sais pas quoi, et que maintenant il allait pouvoir reprendre sa vie normale. S'il tentait qu'elle ait jamais été normale. Au fond, je sais rien de ce type. Peut-être qu'il est encore plus barge que moi. Faut que je me change les idées, alors je décide de faire une virée en ville. Une virée sur mes jambes, bien sûr, parce que je n'ai pas de voiture, et encore moins de permis. Je compie ces connards de moniteurs qui croient pouvoir m'apprendre quoi que ce soit alors qu'ils n'ont jamais lu Marx. Je la leur mets bien profond à ces suppôts de l'automobile, reine maquerelle du capitalisme et du noir pétrole. C'est à pied que je ferai la révolution et ce sera bien suffisant.
Souvent, les écrivains cachent bien leur jeu. Prenez par exemple Romain Terneau. Il est jeune, plutôt calme, de prime abord charmant et délicat. Difficile d'imaginer que ce garçon, lorsqu'il s'enferme dans son appartement pour écrire, bascule dans une sorte d'ivresse qui l'entraîne dans une croisade apocalyptique, c'est le titre de son premier roman, où il plonge ses héros dans la débauche et la violence au cours d'un périple entre Los Angeles, Bombay et Paris. Explication avec l'intéressé qui, non seulement ne regrette rien, mais aggrave son cas en affirmant vouloir faire rire ses lecteurs.
J'ai fait mes études à Reims,
ouais.
De lettres modernes d'abord. Après, je suis allé à Paris pour trouver du travail, tout simplement. À la faculté de Reims, j'ai fait un master en lettres modernes et j'ai fait un mémoire sur John Fante,
ouais.
Ce qui m'a permis de... Enfin, je parlais aussi de Dan Fante, de Bukowski, de plusieurs auteurs. Et la semaine où j'ai soutenu ce mémoire, il y a Dan Fante qui venait à Paris, enfin plus précisément à Vincennes, pour le Festival America. Du coup, j'ai pu le rencontrer en privé à l'hôtel Odéon, grâce à son éditeur à qui j'ai envoyé un email. Et suite à ça, j'ai un peu travaillé dans l'édition, dans plusieurs petites maisons d'édition, dont celle de Dan Fante, voilà.
Comment ça naît une envie d'écrire? Comment ça se passe? Comment un jour on se dit, bah tiens, je vais écrire? Comment c'est?
À l'époque, donc j'avais 22 ans quand j'ai commencé à écrire ce livre, ce roman. J'avais pas d'ambition d'écrire vraiment à ce moment-là. Je l'ai fait comme ça, sur une envie, je pense. En fait, moi je m'étais dit que j'écrirais pas avant d'avoir lu tout ce que je voulais lire avant. Et le problème, c'est que si on fait ça, on fait jamais rien. Et à un moment, j'ai commencé à écrire quelque chose que je trouvais drôle et je le faisais tous les jours, en fait. Et à la fin, il y avait un roman, donc voilà. Donc je me suis dit, ok, après, je me suis dit, autant continuer d'écrire. C'est juste comme ça, c'était pas du tout une ambition au départ. C'est venu comme ça, un peu naturellement, sans trop prendre ça au sérieux. C'était juste pour m'amuser.
Parce que c'est ça, c'est comment on arrive à dépasser. Alors vous avez effectivement des références, vous parlez de Fante et de Bukowski par exemple. Comment on arrive à un moment à se dire, mais comment je vais faire? Moi, il y a eu tant d'auteurs avant moi, il y a eu tant de gens. Comment on passe ce cap? On se dit, si, j'y vais quand même, quoi.
C'est vrai que l'idée, c'était de... Forcément, j'étais influencé par eux, ça c'est indéniable. Et d'ailleurs, je le revendique, puisque à chaque chapitre... À chaque chapitre, il y a une épigraphe d'un de ces auteurs. Mais j'essayais en même temps d'être le plus original possible. Mon idée, c'était de faire quelque chose qui n'aurait jamais été fait avant, enfin, ouais. D'essayer de le faire, tout en, voilà, en essayant de m'émanciper un peu de ces modèles. Donc, mais je fais aussi beaucoup de clins d'œil. Donc c'est assez difficile. De toute façon, on est obligé. Uh-huh. Henry Miller disait que le meilleur auteur possible, ce serait un auteur qui n'aurait rien lu. Quasiment. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Et bon, moi, il se trouve que j'ai beaucoup lu ces auteurs, en tout cas. Du coup, je me suis retrouvé un peu piégé à cause de ça. Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'autre quand même.
Alors, ces auteurs, vous en parlez. Effectivement, vous parlez de ces têtes de chapitres. Alors, il y a des citations de, excusez du peu, Céline, Kerouac, Fante, Bukowski, Baudelaire.
Baudelaire, c'est pour l'épilogue.
Oui.
C'est juste que la citation correspondait vraiment. Et j'aimais bien l'idée de terminer comme ça sur une citation assez forte. Et l'épilogue est assez ambigu. Enfin, j'ai essayé de le faire assez ambigu. Baudelaire, j'aime beaucoup. Mais Modeste, c'est plus les autres. Et c'est plus Céline en littérature française, bien sûr. Je pense que c'est le meilleur auteur français du XXe siècle. Et il a vraiment changé la littérature à son époque. Donc... on peut quand même lui reconnaître ça. Et, enfin, j'essaie pas du tout de reproduire, mais j'aime bien son idée d'inventer un nouveau style et d'être très direct, enfin, et que ce soit très travaillé en même temps. Mais le voyage au bout de la nuit, pour moi, c'est quelque chose de presque indépassable. C'est très fort. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que la construction de mon roman suivait celle du voyage au bout de la nuit, mais ce n'est pas du tout voulu. Je m'en suis rendu compte après coup.
C'était inconscient.
Les voyages. Ah oui, sûrement. C'est...
Alors vous en parlez du style. Comment vous avez travaillé, vous, votre style au bout d'un moment? Comment ça se passe? Comment on fait?
Au début, je n'ai pas réfléchi à une méthode. J'y suis allé vraiment franco. Je me suis mis à écrire, voilà, en essayant que ce soit drôle. Je me suis fixé quelques règles qui étaient que ce soit le plus direct possible. C'était très important pour moi qu'on ne s'ennuie pas du tout, que ça aille très vite. C'est pour ça que c'est écrit au présent et à la première personne. Voilà, j'ai beaucoup de mal, moi, avec les... Enfin, quand on écrit aujourd'hui, à la troisième personne, au passé simple, tout ça, pour moi, ça met trop de distance avec le lecteur. Je trouve qu'aujourd'hui, on devrait essayer de s'émanciper un peu de ce modèle. C'est un peu comme écrire... comme au 19e siècle pour moi. Quand je vois des gens faire ça, je me dis, ouais, ils essaient d'écrire bien, mais ça sent l'artificiel, quoi. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'on soit dedans, qu'on réfléchisse même pas au style, quoi. Que juste on ait envie d'avancer. C'est ça, c'est ma méthode, quoi. C'est pas très, très calculé, mais c'est ce que j'essaie de faire.
J'en déduis que pour vous, l'écriture, c'est pas une souffrance, c'est un plaisir.
Ah oui, absolument. Si je souffre, ça sert à rien de le faire, je pense. C'est parce que ça se voit, quoi. Après, on peut retravailler jusqu'à ce que ce soit parfait, mais le mieux, c'est vraiment que ce soit extrêmement direct et qu'on s'amuse, oui, bien sûr. Souvent, moi, quand j'écris, j'essaye d'être un peu fatigué ou quand je rentre de soirée ou quand je suis vraiment dans un état un peu pas vraiment moi, pour pas avoir trop d'inhibition... J'essaie vraiment le mieux c'est si vraiment limite je rigole en écrivant en disant ah, qu'est-ce que t'es en train d'écrire quoi, ça c'est le top. Mais voilà, c'est pas toujours le cas, mais c'est pour moi c'est le meilleur moyen quoi. Si je me verrais mal vraiment souffrir sur un texte, voilà, à essayer de faire un truc parfait, parce que de toute façon on n'est jamais satisfait. Si on veut vraiment faire un truc parfait, on ne fait jamais rien. C'est surtout ça que j'ai vu, parce que c'était l'idée que j'avais avant. Je m'étais dit, si je dois écrire, j'écrirai un seul roman et je mettrai 10 ans à l'écrire et il sera parfait. Mais je pense que si j'étais resté sur ce choix d'écriture, j'aurais jamais rien fait de ma vie, quoi. Je suis quasiment sûr de ça.
Votre récit, il était construit dès le début? Il y avait le début, la fin, il y avait tout? Ça, parce qu'on a parfois l'impression que c'est... Vous dites, ça va très très vite, quoi, tout s'enchaîne. Quoi. On a presque cette impression, par moment, d'une écriture automatique où les choses s'enchaînent, où le personnage vous a échappé, qui vit sa vie lui-même.
Ah, oui, c'est exactement ça. J'avais les grandes lignes, disons. Je savais... Enfin, au tout début, je ne savais pas du tout où j'allais. J'avais un début que je trouvais marrant et... Voilà, j'y suis allé, il rencontre des gens, qu'est-ce qui va se passer? Ça aurait même pu être un livre de science-fiction, ou ça aurait pu partir n'importe comment. Et il se trouve qu'à la fin, c'était très cohérent, parce qu'en fait, en avançant, j'ai tracé dans ma tête les grandes lignes. Je savais qu'il allait voyager, je savais que j'allais découper mon texte comme ça, et je savais comment ça allait se finir. Et il y a un auteur que bon, je ne suis pas spécialement fan, qui est Jonathan Little, qui a écrit Les Bienveillantes. Il a eu une phrase que je trouve très juste, moi, sur l'écriture. Il dit que quand on écrit pour s'enfoncer dans le noir. Et on s'enfonce dans le noir, non pas pour trouver la lumière, mais pour s'enfoncer toujours plus dans le noir. Et moi, j'ai un peu cette conception-là quand j'écris. Je ne sais pas vraiment où je vais. Vaguement, j'ai quelques repères. Mais de toute façon, quand on écrit, on a des milliers d'idées qui viennent tout le temps. Donc c'est impossible de tout calculer vraiment une œuvre totale. Avec tous les détails, c'est impossible. Il y aura de l'improvisation. Et le fait qu'il y ait de l'improvisation, ça sert justement à ce que l'auteur ne s'ennuie pas lui-même. Et dans cette mesure, moi, j'estime que le lecteur ne s'ennuiera pas, vu que ça se sent, quoi. Si on souffle sur un texte, je pense que ce sera désagréable à lire. Moi, j'essaye de faire l'inverse de ça. Travailler dans un fast-food est un travail épuisant. Je dois placer des rangées de steaks, un carré de 9 en tout, abaisser la machine pour qu'il grille bien comme il faut, pendant ce temps préparer les petits pains et l'assaisonnement, relever le couvercle de la machine, placer les steaks dans chacun d'entre eux et recommencer toute la journée durant. Pour ma pause déjeuner, je ne dois pas consommer plus de 6,50$ de nourriture, autrement dit rien du tout. Je crève littéralement de faim, alors il n'est pas rare que, pendant l'exercice de mes fonctions, je grignote ici et là quelques morceaux de barbac à l'abri des caméras de surveillance. C'est elle le problème, sans quoi je poursuivrai volontiers mes exactions de chez Musso & Frank, en pire bien sûr, histoire d'entraver la marche du capitalisme moderne. Je chierai volontiers dans leur mousse au chocolat, j'éjaculerai dans leur milkshake et je pisserai dans leur jus de pomme. Mais la caméra empêche tout ça, alors je travaille du mieux que je peux pour garder mon emploi, continuer à me biturer la gueule et faire plaisir aux actionnaires.
Donc on a parlé de vous, on a parlé de votre style, de votre écriture. On va maintenant en parler de ce roman qui s'appelle Le Rappel Croisade Apocalyptique. Alors je trouve que le titre est très bien trouvé. C'est une affaire entendue. Et puis j'ai trouvé à un moment une phrase, puisque vous parlez, un des personnages s'appelle Ulrich. Alors vous dites, ceci est l'histoire d'Ulrich, une histoire absurde et violente, une histoire moderne. Et je trouve que ça colle assez bien à votre livre. Alors ce qui est plus amusant, c'est que vous dites, voilà, c'est drôle. Je ne suis pas certain que ceux qui l'ont lu ou que ceux qui vont le lire trouvent que c'est très drôle cette histoire. Parce que... Qu'est-ce qui vous a pris, Romain Ternaux ? Le monde est beau, il y a des oiseaux qui chantent, il y a plein de jolies choses, et vous faites quand même un récit, effectivement, apocalyptique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah oui, je suis d'accord. Peut-être que j'ai un humour particulier, mais ça ne m'intéresse pas tellement d'écrire sur ce qui est charmant, sur ce qui est beau. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de parler de tout ce qui ne va pas. Je pourrais faire quelque chose sur un personnage heureux, mais je ferai 3 pages et après j'arrêterai, parce qu'il n'aura aucun intérêt.
Donc, c'est vrai que c'est une espèce de descente en enfer. Alors, votre héros, vous en avez parlé, on ne sait pas qui c'est. Il n'a pas de prénom, pas d'âge, on l'imagine entre 20 et 30 ans, ouais, à peu près, c'est ça. Et puis après, pas de description physique. Si on sait à un moment qu'il grossit,
ouais.
Tout ça part d'une ville de province, si j'ai tout bien compris. Et puis après, il va aller en Inde, il va aller aux États-Unis, à Los Angeles pour être précis, pour revenir à Paris. Comment vous le décririez-vous, votre roman, sans en dévoiler les principales intrigues ? C'est quoi ?
C'est quelqu'un de très imbu de lui-même qui est persuadé qu'il a un rôle dans une... révolution à venir de type marxiste, mais qui en même temps est complètement alcoolique et loser, et qui ne se rend même pas compte de sa nullité, en fait. Donc c'est un décalage que moi je trouve drôle, c'est le personnage imbuvable, vraiment, qui est ridicule en même temps, qui méprise tout le monde, alors que lui-même n'arrive à rien, et ça le renforce encore plus dans ses convictions qui sont absurdes. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le décrire. C'est un loser ridicule et orgueilleux.
Alors, dans son périple, il va rencontrer plein de personnages, tout aussi barges que lui, quoi. Il y a Caleb, au départ. Ensuite, il va rencontrer Ulrich, Caroline. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces personnages ?
Oui, Caro... le personnage s'appelle Caro, oui. Je peux supposer que c'est Caroline.
Vous dites Caroline à un moment.
Ah oui, ouais. Non, parce que Caro, l'idée du prénom, c'est juste que Caro, en latin, ça va chercher loin, mais ça veut dire la chair. Et comme c'est une prostituée, voilà, je trouvais ça drôle que de l'appeler Caro. Bon. C'est une prostituée qu'il rencontre avec son ami, rencontré par hasard dans un bar, Cal. Et ils fuient la police au début du roman et ils se retrouvent dans une décharge publique. Où il rencontre Caro. Et ensuite, ils vont, par hasard, ils se réfugient dans une grande villa qui est abandonnée, apparemment. Et c'est dans cette villa qu'ils vont rencontrer Ulrich, aussi là par hasard. Ulrich, c'est quelqu'un qui est persuadé, lui, que la fin du monde est pour bientôt. C'est ce qu'on appelle un survivaliste, qui est persuadé.
Oui, il est très trouble, lui, pour le coup.
Oui, c'est un ancien skinhead, on va dire. Il est persuadé que. La terre va manquer d'eau, de tout, donc il veut faire des réserves, il s'entraîne. Et les personnages donc, vont être par hasard impliqués dans un trafic d'armes, et c'est ça qui va les amener en Inde, tous ensemble, sauf Cal. Cal, c'est le narrateur en fait, qui lui a donné ce prénom. Il n'a pas de vrai prénom. Enfin, on ne le connaît pas en tout cas. Et je trouvais ça drôle qu'il ne parle pas, sauf une fois. Et il est très important dans le roman, tout en étant complètement transparent. Et... Enfin, j'aimais bien ce décalage. Il ne voyage pas, lui, il reste en France. Mais il a quand même un rôle important. C'est tout le paradoxe. J'ai aimé l'idée d'avoir un personnage comme ça dans le roman. Et quand il voyage, après, on se rend compte de pas mal de choses sur ces personnages, en tout cas, et du rapport de ce narrateur aux deux autres personnages qui sont Caro et Ulrich.
Il va quand même falloir que vous m'expliquiez une chose. C'est parce que vos personnages, ils vomissent beaucoup. Mmh. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Il y a de la violence, il y a énormément de violence dans le roman. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi tout le monde vomit? Enfin, il y a beaucoup de choses avec la merde aussi. Enfin, il y a tout un tas de trucs et tout. Là, il va falloir vous expliquer. Vous ne pouvez pas rester...
J'ai pas tellement d'explications à donner parce que, comme je vous dis, moi, quand j'écris, je laisse beaucoup aller l'improvisation. Mais dans la mesure où le narrateur est tout le temps excessif... C'est normal au bout d'un moment qu'il y ait ces choses-là qui arrivent et qu'elles soient décuplées, vu qu'il vit tout à 10 000 %. Et d'ailleurs, il est tellement alcoolique que des fois, on peut douter que tout se passe vraiment tel que lui le décrit, tel que ça se passe dans sa tête, quoi, parce qu'on est vraiment dans sa tête quand on lit. Donc oui, il y a énormément de passages avec, en effet, oui, du vomi. Il vomit très souvent. Il y a des tendances, il y a un peu des hallucinations qu'au profil, dans les toilettes, il imagine qu'il y a un monstre qui le poursuit. Il y a beaucoup de choses comme ça. Après, moi, ce n'est pas des tendances que j'ai personnellement.
Non, je m'en doute bien.
Mais je trouvais ça, je ne sais pas, mais il y a ça dans... Quand on lit Céline, par exemple, dans Mort à crédit, il y a beaucoup de choses comme ça. Quand ils sont sur le bateau, quand il est petit, avec sa famille, tout le monde se met à vomir. D'un coup, ça prend des dimensions de dingue. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai essayé inconsciemment de reproduire. Comme le narrateur est vraiment excessif et vraiment asocial... Là où il a vraiment des hallucinations, c'est quand il se retrouve tout seul à Los Angeles, dans sa chambre. Et oui, c'est paradoxal, mais il se met à manger beaucoup de fast-food, le fast-food pour lequel il travaille, et qui est celui, au début du roman, qui l'incendie verbalement, parce que lui ne supporte pas ça. Donc il se met à grossir énormément. Et c'est là qu'il commence à avoir des hallucinations, puisqu'il est tout seul, confiné chez lui, qu'il est un peu coincé comme un rein, il peut même pas repartir en France, ça va mal. Donc oui, il entre dans un délire un peu comme ça, qu'on peut trouver malsain, qu'on peut trouver drôle. Mais en tout cas, moi je trouve ça plus drôle que bizarre. C'est bizarre, mais faut pas le prendre au premier degré. Décide d'y aller à l'instinct, sans trop d'idées en tête. Le mouvement du marqueur trace les lignes d'une œuvre magistrale à venir. Je veux faire dans ce couloir de métro le Guernica du 21e siècle. Des images apparaissent, des hamburgers, des usines, des voitures, des billets de banque, la statue de la liberté en rectus effrayant, des chars d'assaut aux couleurs de la France, des armes, des seringues, des bouteilles, des télévisions, des postes de radio, des ordinateurs, et je les lis tous ensemble en leur dessinant des fils de fer barbelés qui les connectent inextricablement, ainsi qu'à des livres sacrés et des idoles des religions panthéistes. Quand j'ai fini, si tant est qu'on puisse finir une telle œuvre, je suis en sueur et je sens tous les yeux tournés vers moi. Les gens laissent passer les métros et préfèrent s'accumuler en foule pour contempler ce chef-d'œuvre. Merci, merci. J'attendais pas autant de reconnaissance de la part d'un peuple de gallinacés. Ça pour une surprise. J'ai à peine le temps de signer l'œuvre et d'y ajouter le titre, Brave Ugly World, que la police du métro intervient. Je me sauve, enjambe les portes métalliques et cours le plus vite que je peux dans la rue qui s'éveille.
Un mot de l'éditeur, c'est pas un éditeur très connu.
Non, pour l'instant, non. Je suis le quatrième auteur qui publie.
Ouais.
C'est un éditeur qui a peut-être 2 ans maintenant. Ils ont la particularité d'associer un artiste à chaque texte.
Ouais.
Donc pour moi, c'était un photographe qui s'appelle Bénigne, qui fait des photos assez dérangeantes que moi j'aime beaucoup. Vous pouvez aller sur son site qui s'appelle Bénigne, bénigne.book.fr, si vous voulez vous faire une idée. C'est celui qui a fait la couverture. Et à chaque chapitre, il y a une photo de Bénigne. Donc cet éditeur, c'est sa démarche, en fait. Elle fait beaucoup de... Enfin, les romans qu'elle a publiés, pour l'essentiel, c'est des premiers romans d'auteurs inconnus français. Moi, je trouve que c'est assez notable parce que ça se fait... Enfin, il y a peu d'éditeurs qui prennent le risque, de moins en moins, j'ai l'impression, de publier des premiers romans d'inconnus, de parfaits inconnus. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire sur...
Peut-être, vous, ça, c'est votre premier roman. Vous me parliez d'autres textes que vous avez écrits ou d'autres textes en cours, hein. Comment c'est...
J'en ai écrit beaucoup d'autres, donc voilà. Mais là, je fais surtout la promotion du premier.
Ouais.
J'ai beaucoup écrit... quand j'étais à Paris, pendant 2 ans, j'ai travaillé dans des petites maisons d'édition, mais pour l'essentiel, j'écrivais. Donc là, j'en ai fait une dizaine déjà. Donc je vais essayer. Je ne sais pas si tous seront publiés, mais je vais essayer.
Vous êtes très productif.
Ça m'intéresse maintenant. Donc. Enfin, j'essaie, à chaque fois que j'ai une idée, j'essaie de la faire, quoi, de la concrétiser en roman. Quand on prend l'habitude de faire quelque chose tous les jours, après, ça devient dur. J'écris vraiment tous les jours. Et j'aurais du mal à laisser une journée sans écrire, quoi. Je me sentirais mal le soir, je pense, maintenant. C'est devenu addictif comme ça. Voilà, donc l'éditeur s'appelle Dub Édition, D-U-B,
ouais.
Édition. Vous pouvez trouver le livre en librairie, il est dans plusieurs librairies. À Reims, je sais que normalement il est à la librairie qui s'appelle Le Cœur à l'Ouvrage, qui est rue Chanzy, près du Collège Université. Normalement, il doit être aussi chez Guerlain. Et j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns à la FNAC aussi, sur une table.
D'accord, bon, on va rappeler son titre. Croisade apocalyptique. Et vous êtes Romain Ternaux.
Oui, T-E-R-N-A-U-X.
Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.